pour ceux qui ne connaissent, est-ce que ça marche comme ça? Non, ça ne marche pas. Alors, dans ces conditions, on fait comme ça.
Voilà.
Pour ceux qui ne connaissent pas Frère Gilles, c'est donc mon voisin.
Merci.
Frère Gilles est dominicain, ça se voit. Aujourd'hui, en ce moment, il est un personnage très important à l'Institut catholique de Toulouse. Un personnage très important parce que c'est l'aumônier, et donc il connaît les étudiants autrement, et il a un rôle d'accompagnateur spirituel qui est évident. Et puis, bien sûr, il enseigne aussi. Il enseigne à l'Institut d'études et de recherche pastorale, qui est une des composantes de l'Institut catholique de Toulouse. Et bien sûr, il est au couvent des Dominicains. Alors, comme il a une vie extrêmement active et très différenciée, en fait, il puise une partie de sa richesse personnelle dans... Alors, vivre pendant 20 ans en Haïti, ça ne vous laisse pas indemne. Surtout quand il s'y passe des choses difficiles. Surtout quand, en plus, entre-temps, il va un peu à la Martinique, un peu à la Guadeloupe, et qu'à la Martinique et à la Guadeloupe, il se passe aussi des choses difficiles. Et puis qu'il y a eu des monastères qui ont été créés dans ces pays-là, qui sont revenus par ici, qui sont repartis ultérieurement. Donc ça en fait une source d'information, au sens le plus large du terme, extrêmement riche. Voilà, c'est Frère Gilles. En plus, il chante bien. Il écrit de la musique, il écrit des poèmes. Alors, si vous voulez, avec lui, on ne s'ennuie pas.
Merci Marie-Christine. Permettez que je l'appelle devant vous Marie-Christine, parce que c'est plus facile à prononcer et c'est plus vrai dans la relation que nous avons grâce à la ville de Toulouse et au cœur de cette ville de Toulouse. L'Institut catholique de Toulouse, où nous nous sommes rencontrés au début, j'allais dire, de façon plutôt professionnelle, mais très vite, la barrière professionnelle est devenue une avenue d'amitié. Et donc, Marie-Christine, je dirais d'abord cela d'elle, et nous avons aussi Richard qui est là, son mari, qui nous a fort bien conduits parce que nous avions tant à nous dire qu'il fallait qu'il soit attentif à la route. Et donc Marie-Christine intervient dans cette conférence à deux voix et à multiples voix, parce que nous espérons un débat à la fin, n'est-ce pas? Et elle intervient en tant que justement économiste, et bien souvent nous n'avons pas de confrontation entre des confrontations transversales entre, par exemple, l'économie et la théologie. C'est une remarque d'une amie de la famille dominicaine, Elena Lacida, qui part de ce constat que, en tant qu'économiste, elle a été complètement bouleversée par la rencontre de l'Arche de Jean Vanier et donc de ce thème de la vulnérabilité. Donc, c'est en tant que dans la solidité, si je puis dire, de la réflexion scientifique, économique, que nous pouvons nous confronter avec des problèmes qui vont de la philosophie et à la théologie et à la vie spirituelle, je dirais même mystique. Car le thème de la vulnérabilité et de l'innovation sociale est au carrefour de toutes ces entrées possibles et qui bénéficient, ces entrées bénéficient aussi de l'attention et de la rigueur. Et je peux dire en toute amitié combien Marie-Christine m'a apporté et nous a apporté, autant à l'IERP, où elle a organisé deux colloques, l'un sur le don, qui est publié, et ce dernier colloque que nous avons essayé de monter ensemble, enfin qu'elle a monté à 98%. Voilà. Et donc, elle est actuellement doyenne de la faculté libre de droit de l'Institut catholique de Toulouse, et elle est déjà intervenue dans ce livre que peut-être je vous présenterai, puisque Le livre attendu est un petit peu en retard. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Eh bien, vous aurez au moins un peu de poussière annonciatrice dans ce livre que où Marie-Christine et plusieurs autres intervenants de notre colloque de Toulouse est intervenu. C'est un livre sur Laudato Si pour une écologie intégrale. Il ne reste que très peu d'exemplaires. J'ai porté ce que ma valise me permettait de porter. Donc, je commence au-delà ou à l'intérieur de cette amitié avec Marie-Christine, amitié constructive et qui demande aussi rigueur et approfondissement, l'un allant avec l'autre, pour présenter ce thème. Et ce thème nous a été donné par le fait que nous avons eu un colloque sur quelque chose d'avoisinant et que nous avons à réécrire, y compris aujourd'hui, la vulnérabilité et l'innovation sociale. Et permettez-moi, pour introduire au corps et au cœur du sujet, de rapprocher ce thème des amis de chalet qui, à mes yeux, font partie de la grande famille et de la belle famille dominicaine. En prenant un mot ou deux mots que nous avions pris au départ pour amorcer la préparation de ce colloque de miséricorde, puisque vous savez que l'entrée dans la famille dominicaine se fait par un dialogue. Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et la vôtre. Et la vôtre. Et quand on approfondit ce mot de miséricorde, quand on le voit aussi combien l'année de la miséricorde décrétée par le pape François a été non seulement prolifique en tant qu'approfondissement dans tous les domaines, mais aussi c'est l'année que, dans cette espèce de stratégie du pape, qui a permis la venue d'Amoris Laetitia, qui est aussi un moment, vous voyez, un moment critique, mais aussi un moment clé de clarification de la pensée de l'Église en matière de vie, en matière de vie de la famille, de la personne humaine et de ce que l'on appelle l'écologie humaine. Miséricorde, année de la miséricorde. Ce que nous avons compris cette année-là, c'est que la miséricorde recouvrait tout le monde. Alors qu'auparavant, il y avait les bons et les méchants, les purs, les impurs, le clergé et les autres, les religieux et les autres, etc., etc., l'Église enseignante et l'Église enseignée, tout d'un coup, on voit que le manteau de la miséricorde recouvre du pape au plus grand des criminels, c'est le même manteau de la miséricorde. Nous sommes tous à égalité, si je puis dire, nous sommes tous à égalité de dignité parce que nous pouvons accepter, accueillir la miséricorde qui nous sauve. Et donc, le partage n'est plus entre une catégorie et une autre dans l'humanité et dans l'Église. Nous sommes tous sous le régime de la miséricorde. Et la miséricorde veut dire quelque chose de très important. C'est que la miséricorde place, c'est une action qui met un cœur dans la misère. Et là, nous allons trouver des problèmes immenses de notre humanité qui concernent effectivement l'économie. C'est le mot misère, mais c'est un mot que nous avons peu à peu poussé de côté pour le mot de handicap ou de fragilité. Tous les mots de faiblesse que nous pourrions accoler en nébuleuse autour de ce mot de vulnérabilité. Et Ce qui est très important, c'est que la misère se caractérise du coup. C'est un regard chrétien, un regard spirituel, mais c'est un regard partagé par ô combien d'observateurs, en particulier dans les pays dits pauvres, comme Haïti. La misère, ben c'est là où il n'y a pas de cœur. Donc, il est possible qu'il y ait des situations humaines où l'homme détruit l'homme. Et ces situations humaines sont des situations qui ne souffrent pas de compromis. On ne peut pas être d'accord avec une activité humaine, fût-elle économique, qui détruirait une autre partie de l'humanité. Une espèce d'auto-suicide de l'humanité par quand elle est plongée dans la misère. Donc, le fait de prendre ce thème de miséricorde nous montrait qu'il y avait à faire, d'une part, combattre la destruction, et d'autre part, mettre un cœur. Et c'est ça qui est une activité profondément humaine, qui n'est pas que chrétienne, qui est partagée avec beaucoup de ceux que, par exemple, en début d'encyclique Laudato si, on appelle aux hommes de bonne volonté de partout, de toutes les cultures, de tous les pays, de toutes les religions et autres. Donc voilà comment le débat était campé dans la préparation de ce colloque. Mais peu à peu, nous avons compris, et j'y reviendrai après l'analyse de Marie-Christine, que la vulnérabilité, elle était comme, d'une certaine manière, la miséricorde. C'est là qu'on va commencer à parler d'inversion. C'est-à-dire que tous les hommes sont vulnérables. Il n'y a pas l'homme fort, invulnérable, qui se prolongera dans le transhumanisme avec l'homme augmenté, l'homme selon la compétence du plus fort, mais qu'il y a justement... Toute l'humanité est sous le même manteau de la vulnérabilité. Tous les êtres humains sont vulnérables, puisqu'il y a aussi, comme nous le verrons à la fin, la question de la mort, de la finitude. L'homme est dans la temporalité, l'homme est marqué par justement et la définition même qu'il donne de l'homme, et cette finitude nous oblige à nous regarder les uns les autres d'une autre manière, et nous découvrons que justement tout ce qui va mettre un cœur dans la misère, tout ce qui va humaniser l'homme, tout ce qui va justement partir de ce constat de la finitude pour le dépasser par la relation, eh bien, va faire naître ce que nous appellerons ce soir la vulnérabilité positive. Et vous voyez que déjà, avant même de parler d'innovation sociale inversée, eh bien nous pouvons penser en termes de conversion de la vulnérabilité négative, que nous analyserons aussi, en vulnérabilité positive. Ce qui détruit peut être converti vers ce qui construit, vers ce qui est en relation avec. Et c'est de cela que nous allons traité maintenant avec Marie-Christine, et je reviendrai sur des questions un peu de philosophie et de théologie concernant la vulnérabilité même de Dieu.
Alors vous avez compris tout de suite que on n'allait pas jouer sur les mots, mais qu'on allait un petit peu travailler sur les mots, parce que ces mots étaient tellement riches qu'ils nous interpellent très vite. Et donc, c'est à cette promenade que je vous invite. Alors, tout le monde sait que vulnérabilité, ça vient de vulnus, qui veut dire la blessure. Cette blessure, elle est très sensible quand on ouvre le petit Larousse, qui est généralement la première tâche qu'on fait quand on veut définir un mot. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Larousse? Il nous dit qu'une personne est vulnérable lorsqu'elle est prise, lorsqu'elle donne prise à une attaque, lorsqu'elle peut être blessée. Ça, c'est la première définition. Mais si vous voulez bien, je vais vous emmener dans une petite promenade historique pour comprendre ce que ce qu'on peut mettre derrière le mot de vulnérabilité et en quoi il peut être pour nous aujourd'hui extrêmement intéressant. Au XVIIIe siècle, donc c'est pas hier, la vulnérabilité, elle est perçue comme biologique, comme propre à l'homme, depuis la faute originelle. Ça veut dire qu'elle elle conduit tout naturellement à un certain fatalisme. Les hommes, certes, nous sommes vulnérables, on n'y peut rien, c'est comme ça. Au XIXe siècle, on réfléchit parce que l'homme se sent plus fort. La vulnérabilité, au XIXe siècle, on commence à la penser comme maîtrisable. C'est-à-dire qu'avec le progrès scientifique, avec les médicaments, avec la volonté, ceux qui ont de la volonté, eh bien, ils peuvent compenser cette vulnérabilité biologique qui est la nôtre. Et la société va construire un petit peu quelque chose pour aider la volonté. C'est toute la construction de la protection sociale. Alors on est là au XXe siècle, c'est la fameuse Sécu, en 1945 pour les Français. C'est ce qui va nous aider à être moins vulnérables. Et puis, à la fin du XXe siècle, donc on se rapproche de notre période à nous, la vulnérabilité est toujours considérée comme une imperfection, comme une faiblesse, comme quelque chose qui ne nous permet pas de répondre à tel ou tel choc de la vie. Mais, en même temps, comme dirait notre président, il semble qu'on puisse être capable et incapable, responsable et irresponsable, autonome et non autonome, on dit hétéronome. Et donc ça veut dire que quelque part, nous avons des possibilités, des capacités qui font qu'en même temps, on est capable et incapable. Donc nous sommes vulnérables, mais nous disposons toujours de ressources mobilisables. Nous sommes fragiles, mais nous sommes susceptibles de résilience, de redémarrage. Alors, cette possibilité, les sociologues la travaillent beaucoup au XXe siècle, au XXIe siècle. Ils disent, ce que rappelait à l'instant frère Gilles, c'est que la vulnérabilité est universelle. Nous sommes tous vulnérables. Mais elle est potentielle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tout le temps tous vulnérables. Elle correspond souvent à une situation, à un moment donné de notre vie, nous sommes plus vulnérables qu'un autre. Mais tout le monde n'est pas vulnérable de façon égale. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres face à la vulnérabilité, qui sont plus touchés que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est réversible. Donc, la vulnérabilité, ce n'est pas triste. Alors, allons encore plus loin. Il y a un auteur que certains ont dû lire, mais qui est un petit peu difficile, qui s'appelle Honnel, qui est un Allemand, qui insiste sur le fait que la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose de ressenti. Pas uniquement quand on est malade, etc. C'est ressenti. Et cette vulnérabilité, qu'il appelle la vulnérabilité psychique, elle est mise en lumière dans le besoin que nous avons tous d'être reconnus, d'être respectés, d'être aimés, d'être estimés. Donc, tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont été méprisés, ont été accusés, eh bien, se sentent plus vulnérables encore que les autres, ou ils seront marqués plus fortement par la vulnérabilité. Alors, chacun d'entre nous l'a parfois senti à un moment de sa vie. Quand on est plus âgé, on se sent plus vulnérable, et parfois on a l'impression que les jeunes vous manquent de respect. Quand on est malade, on a l'impression qu'on ne vous écoute plus. Et donc, là encore, c'est un manque de respect qui apparaît. Alors, vous voyez que le mot de vulnérabilité est en fait beaucoup plus riche que celui qu'on avait au XVIIIe siècle. et qu'il intègre ce qu'au fond, petit à petit, nous avons tous ressenti, mais il met des mots et des étapes de façon importante derrière ce mot. Alors, ce qui nous impressionne aussi dans cette petite promenade, c'est que il y a des façons différentes d'être confronté ou de lutter contre la vulnérabilité. Au XVIIe siècle, par exemple, si on n'appartenait pas à une confrérie, si on n'appartenait pas à une famille solide, bien, comme il n'y avait pas de sécurité sociale, le jour où on était frappé par un malheur, on était dans une vulnérabilité totale et dont souvent on ne se sortait pas. Mais aujourd'hui, où il y a la sécurité sociale, il y a des amitiés, il y a des statuts qui protègent, il n'empêche que le fait de sentir que sans ce statut, que sans celui qui vous assiste, eh bien, vous perdez votre force, vous vous sentez dépendant. Et finalement, ce n'est pas très différent de la vulnérabilité initiale. Aujourd'hui, dans les années depuis 2008, ce que l'on appelle la crise des subprimes, depuis 2008, le sentiment des crises est devenu encore plus général. D'abord, on a l'impression qu'on ne s'est jamais sorti de la crise économique. Et puis maintenant, il y a une crise écologique. Et puis maintenant, il y a des accidents de température, etc., qui nous paraissent des catastrophes naturelles, qui nous paraissent extrêmement graves. Donc au fond, aujourd'hui, le sentiment de vulnérabilité s'est répandu. Et quand on demande aux Français, est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? Les résultats sont catastrophiques. Il y en a 80% qui disent non. Et quand on leur demande s'ils ont l'impression qu'ils pourraient tomber à la rue, il y en a 50% qui disent c'est possible. Donc ce sentiment de vulnérabilité, d'inquiétude, il s'est très largement répandu. Et même maintenant, on parle des écosystèmes vulnérables. Et les images que nous avons tous vues, des fonds de l'océan qui sont où il n'y a plus de coraux et des choses comme ça, on parle de la vulnérabilité de nos écosystèmes. Et donc cette prise de conscience, elle s'est extrêmement généralisée. Malgré les garde-fous que je vous ai cités tout à l'heure et qui sont apparus. Alors, si Frère Gilles n'avait pas commencé en disant qu'on parlerait peut-être de vulnérabilité positive, vous diriez que pour l'instant, je n'ai évoqué que la face négative de la vulnérabilité. C'est vrai que la première image que l'on a de la vulnérabilité, c'est qu'on est fragile et qu'on ne va pas être capable de s'en sortir. Et c'est un sentiment qui est partagé par de nombreuses personnes, même des scientifiques, même des philosophes. Et j'ai lu récemment une dame qui s'appelle Corinne Pelluchon, dont on parle beaucoup. Eh bien, elle identifie la personne vulnérable au malade, à celui qui est en fin de vie, à l'handicapé, aux animaux, à la nature. La vulnérabilité, dit-elle, c'est une vie malade ou diminuée. Alors, si on a un tel regard sur la vulnérabilité, d'abord, on ne va pas très très loin, on est inquiet. Et au fond, ça nous rappelle aussi ce que certains disaient, et vous en avez tous entendu parler. Vous savez, au XVIIIe siècle, on lit dans les livres d'histoire, par exemple, que, effectivement, il y a des pauvres, bon, c'est une fatalité, mais il y a des mauvais pauvres. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais il y a des paresseux, et on en parle encore. Il y a des hommes, bon, et puis il y a l'immigré, qui lui aussi, on ne sait pas trop d'où il vient. Et aujourd'hui, au-delà de cette histoire du 18e, eh bien, il y a le fait qu'on n'a tellement pas envie d'être vulnérable que certains dénient la vulnérabilité. Et on a vu des chefs d'entreprise, des responsables politiques qui disent « Moi, je ne suis pas vulnérable. Je suis inséré, je suis actif, je suis responsable. » Tintin, un de ces jours, se casse la figure et ils sont confrontés avec leur vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière qui peut nous conduire à aller plus loin? Je vais prendre quelques exemples qui ne sont pas de moi, qui sont des auteurs qui étaient avec nous quand on a préparé ce séminaire. En particulier Pascal Hyde, qui est prêtre, et puis une de mes copines économistes qui s'appelle Béatrice Perlong. Ils nous disent, prenons un exemple, l'amitié. Quand on a un ami, on devient vulnérable. Pourquoi? Parce que quand on a un ami, on donne. Et si l'autre ne voulait pas, si l'autre refusait notre amitié, nous sommes vulnérables dans notre relation amicale. J'aimerais que tu deviennes mon ami, disait le petit prince. Et si vous vous souvenez de ce texte, le petit prince a peur que le renard ne veuille pas être son ami. Et il lui explique combien ce serait magnifique s'il devenait son ami. Je t'attendrai, je saurai que tu viens.
C'est le renard.
Oui.
C'est le petit renard.
C'est le petit renard qui dit ça. Tu as raison. Je suis désolée. J'ai fait... Mais ça ne change rien.
On est vulnérable.
Alors prenons un autre exemple qui est tout aussi fort et que je vais peut-être mieux maîtriser parce que je suis mère de famille. Le tout petit enfant. Le tout petit enfant, pour tous ceux qui ont côtoyé des petits enfants, ça nous a forcément frappé à un moment ou à un autre. Le petit enfant, il ne connaît pas les codes d'aujourd'hui, il ne connaît pas les codes sociaux. Mais nous avons tous remarqué que les petits enfants vont voir certaines personnes et pas d'autres. Ils se proposent d'aller sur les genoux ou se laisser porter parce qu'ils ont tout de suite la sensation de celui avec lequel ils sont en confiance. Ça va bien se passer. Cette personne-là, il la sent bien, comme disent les ados d'aujourd'hui. Cette observation, elle est forte pour nous. Je vais prendre encore un autre exemple. Cet été, on a beaucoup évoqué dans la presse les problèmes des EHPAD. Et en particulier, on a évoqué les malades qui étaient peu soignés, les personnes âgées que l'on laissait un petit peu de côté. On a aussi écouté fortement les enfants. On les a entendus. Après, est-ce qu'on les a écoutés, c'est une autre question. Mais on les a entendus dire. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'ils n'avaient plus le temps de s'occuper. Je n'ai plus le temps de m'occuper de mes malades, de mes personnes, de mon étage, des chambres dont j'ai la responsabilité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette absence de temps apparaissait aussi lourde? Est-ce qu'il suffisait de mettre quelqu'un de plus ou un ordinateur qui aurait traité tel ou tel problème? C'était pas ça. C'est que ces personnes qui travaillent dans les EHPAD, les infirmiers, les aides-soignantes, etc., ils avaient parfaitement conscience que la relation qu'ils avaient avec leurs malades, leurs vieillards, c'était une relation à double sens. Et que si le temps leur manque, la vulnérabilité du malade devient la vulnérabilité de l'infirmière. Son métier n'a plus de sens et donc elle est mal dans sa peau et elle devient profondément vulnérable. Alors, les auteurs que je vous ai cités tout à l'heure, ils parlent, je vous dis les mots parce que je trouve que ce sont des mots jolis et que vous retiendrez facilement. Ils parlent de vulnérabilité véritative, de vulnérabilité amative. Et disent-ils, ces vulnérabilités-là, elles sont positives. Et elles changent le regard que l'on peut avoir sur la vulnérabilité. Alors, on a une vulnérabilité négative, on a une vulnérabilité positive. Et Frère Gilles disait souvent, au fond, c'est tout à fait les symboles de la vie. Il y a le feu qui réchauffe, et puis il y a le feu qui brûle. Il y a l'eau qui nous fait vivre, et puis il y a l'eau qui noie. Donc au fond, le cycle de notre vie sur cette terre, cela suppose juste une chose, c'est que nous changions de regard sur la vulnérabilité. Il faut qu'on nous dise qu'au fond, la vulnérabilité humaine, ce n'est pas une faiblesse à rectifier, une maladie à guérir, mais c'est le socle anthropologique à partir duquel il convient de construire la vie sociale comme une vie relationnelle, respectueuse du mystère de chaque être. Ce que Domenico Atena, qui est une philosophe, appelle un écosystème relationnel. Alors, comme le disait tout à l'heure Frère Gilles, eh bien, notre pape François a inséré dans cette analyse cette fameuse idée de la miséricorde. Et au fond, cette idée du cœur qui s'insère dans cette misère humaine, c'est peut-être celle-là qui va nous faire transformer. Alors, vous êtes forcément d'accord avec le fait qu'il y a une vulnérabilité positive, ça se sent tout de suite. Hein. Et on pourrait dire, au fond, vous n'avez rien inventé du tout, ça c'est sûr, mais au fond, on peut vous citer des tas de belles histoires qui racontent que celui qui paraissait vulnérable, en fait, a eu soit une résilience, soit n'était pas si vulnérable que ça, soit il a changé la donne et que le regard que l'on a sur lui n'est plus le même. Nous connaissons ces histoires de ces jeunes handicapés qui deviennent champions olympiques, qui traversent la Méditerranée ou le détroit de Béring à la nage, sans jambes, sans bras. Quand on voit ça à la télévision, on se dit, comment est-ce qu'il peut bien faire? Il y arrive. Et puis on voit des chômeurs qui créent une entreprise et puis qui créent des milliers d'emplois, alors qu'eux, ils n'en avaient pas un. On voit des jeunes des quartiers qui deviennent des artistes reconnus. On voit des immigrés qui s'appellent Charles Aznavour. Tout ça, c'est vrai. Mais ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions qui me semblent venir d'un certain niveau de démocratie dans notre pays ou dans notre chère Europe. Démocratie qui a un filtre qui laisse passer quelques graines qui, même si le terreau n'était pas très fertile, s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, eh bien, ces graines-là, elles ont quand même réussi à grandir. Mais ce ne sont que des belles histoires. Alors, et que nous comprenions comment cette vulnérabilité dont nous avions vu le caractère positif, comment est-ce qu'elle peut se transformer en quelque chose qui touche l'ensemble de notre communauté dans un pays, dans une nation, sur la planète, ce genre de... Et pour cela, je vous propose de réfléchir maintenant un tout petit peu sur ce que nous avons appelé l'innovation sociale et l'innovation inversée.